Bibin, le magazine qui explore, qui voyage, qui découvre. Suivez nos micros sur les chemins de traverse.
Les paysages, on y prête attention, on s'extasie, on les photographie, ou pas. Nos paysages quotidiens, on a tendance à les oublier. Et pourtant, ils ont sans doute plus d'importance que nous le pensons. Les neurosciences commencent à s'y intéresser. Depuis quelques années, les scientifiques ont établi un net lien entre le bien-être des gens et un paysage de nature en bon état et accessible. D'autres études montrent l'impact que la vue sur un jardin, des arbres, de la verdure a sur les malades hospitalisés. Quand on a une fenêtre sur le végétal, la convalescence est plus courte. Bref, il est temps de s'interroger sur notre cadre de vie au sens large, l'aspect visuel, mais plus largement sensoriel. Le paysage olfactif, une odeur de fleurs plutôt que de gasoil ou de lisier. Le paysage tactile, fait-il chroniquement trop chaud ou plus chaud qu'ailleurs dans cet endroit? Est-ce un couloir à vent? Et bien sûr, le paysage sonore, nous sommes en radio. Pourquoi pas le paysage gustatif aussi? Est-ce qu'on peut cueillir des pommes ici? Y a-t-il des murs? Finalement, on commence à voir que derrière cette question du paysage apparaissent d'autres enjeux, de pollution et de santé, d'artificialisation du sol, de mode de production. Il est temps de prêter attention à nos paysages et même de les protéger. Il existe partout en France des associations à qui on a confié cette mission. Les conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, les CAUE. Dans le Finistère, c'est Nicolas Duverger qui en est le directeur.
Alors les CAUE sont une émanation de la loi sur l'architecture du 3 janvier 1977 qui décrète l'intérêt public de l'architecture et des paysages, qui dit d'ailleurs que elles sont une émanation de la culture et qui demande en conséquence à ce qu'on en prenne davantage soin et que les départements mettent sur pied une association de conseils, de sensibilisation, de formation et d'information à destination de l'ensemble des publics, aussi bien les élus, les décideurs publics que les particuliers, pour essayer que les constructions nouvelles, les aménagements nouveaux se fassent dans un souci d'harmonie au regard du contexte local.
C'est-à-dire, c'est un peu pour lutter contre la France moche et ses zones commerciales extérieures?
Oui, je pense qu'on devait déjà constater les ravages de l'artificialisation, de l'étalement urbain. Il y a les premiers rapports justement liés à ces notions d'étalement d'impact sur le paysage datent des années 70, effectivement. C'est aussi la fin des Trente Glorieuses, on se pose des questions énergétiques, choc pétrolier, 74, 77 c'est 3 ans après, et donc on constate qu'on est dans un monde fini et qu'il va falloir aborder les choses un petit peu différemment, avec peut-être un peu plus d'amabilité à l'égard du vivant et surtout dans le respect du paysage.
Alors justement, les CAUE donc, qui sont anciens et dans le Finistère, il est finalement récent. Est-ce que vous avez pu voir l'évolution ou est-ce que votre CAUE du Finistère a déjà était déjà un CAUE plus évolué que les autres, entre guillemets?
Alors, on est tout récent. Le département a fait le choix de recréer un CAUE en 2014 en Finistère. Donc vous voyez, on n'a pas beaucoup d'années. Mais ceci dit, En analysant les dynamiques à l'œuvre sur le département du Finistère, on se rend compte qu'on a probablement, nous et d'autres partenaires, je pense au parc d'Armorique par exemple, je pense aussi à des collectivités qui ont changé leur façon de faire, on a été quand même à l'initiative d'un nouveau regard sur la question du paysage. On a vu émerger sur le Finistère de nouvelles agences de paysagistes concepteurs. Il y avait 3-4 agences qui étaient très intéressantes, qui avaient vraiment une bonne notoriété, qui faisaient du bon boulot sur le Finistère. Aujourd'hui, il y en a certainement le triple. Et donc, ça veut dire que peut-être qu'on a accompagné ce mouvement de prise de conscience de la question du paysage. Et puis, par ailleurs, au travers de nos 500 conseils dispensés chaque année aux particuliers qui souhaitent bénéficier de l'œil d'un architecte ou d'un paysagiste concepteur auprès du CAUE, on sent aussi ce que ça peut produire. Alors, 500 sur 900 000 habitants, c'est pas grand chose, mais malgré tout c'est des petites pierres, c'est un peu d'acupuncture notre travail, et puis chaque année on accompagne plus d'une centaine de communes sur tout le département, et donc sur des projets emblématiques, et ces projets pourront être des démonstrateurs de nouvelles manières de faire et inspirer les particuliers. On sait très bien que ce qui se passe dans l'espace public inspire le particulier. Il suffit de voir les ravages du bitume et de la bâche en plastique qui sont quand même, dans un premier temps, apparus dans l'espace public. On a du bitume, du béton et de la bordure, c'est-à-dire un aménagement hyper fonctionnaliste, alors qui remplit certaines fonctions, peut-être de fluidité de l'automobile, c'est peut-être d'ailleurs la seule fonction qu'elle remplit, qui peut aussi résoudre des questions liées à l'eau, à l'évacuation de l'eau, mais qui bien sûr assèche les sols, artificialise, etc. Ces solutions mises en œuvre dans les années 70 et 80 ont inspiré le particulier et on les voit maintenant dans le domaine privé. Il suffit de se balader dans les lotissements qui jonchent le Finistère pour se rendre compte que, je n'ai pas de proportion, mais peut-être 80% des gens aspirent à faire reculer la nature, comme si la nature était une menace chez soi, et remplacent un bout de terre pleine, enfin de terre ferme avec de l'herbe, etc., par du bitume, par de la bâche pour éviter l'entretien, coupe les arbres parce que ça fait des feuilles, installe par contre un barbecue, une plancha, une terrasse, un trampoline. Enfin, on a des mini-parcs d'attractions chez les gens, mais on n'a plus de nature.
La nature. Comme leur nom l'indique, les parcs naturels, eux aussi, ont pour mission de protéger les paysages. Dans le parc naturel régional d'Armorique, c'est Lise Vauvert qui est chargée de mission sur ce sujet. Parfois, elle propose des balades de lecture du paysage, comme en ce jour de fin d'hiver à Logona d'Aoulas, au bord de la rade de Brest.
Alors là, donc, on a allongé la route dite du marché. Donc quand on regarde sur une photographie aérienne qui date celle-ci de 1950, là c'est ici en fait qu'on a récupéré la route. Là, on voit que cette route en fait n'existait pas du tout, cet axe n'existait pas. Pas plus que la route du Menhir, qui est également une route importante maintenant aujourd'hui, qui mène vers l'hôpital Canfrout, qui est juste un peu plus loin. Et donc ce qui est intéressant quand on regarde comment les paysages ont évolué, c'est de pouvoir comparer comme ça. On a regardé avec des cartes postales anciennes, mais là avec des photographies aériennes, c'est aussi intéressant, on voit autre chose. On voit justement ce dont parlait monsieur tout à l'heure, les logiques d'urbanisation qui ont été mises en place sur une époque plus récente. Donc là, par exemple, c'est 1978. La photo, on voit qu'en fait les constructions vont continuer le long des axes et qu'on va même créer en fait de nouvelles routes. Donc là c'est la route qui mène justement à l'hôpital Canfrout, qui n'existait pas du tout auparavant, et on va continuer en fait de construire de part et d'autre de ces routes. Là on voit hein, tout à l'heure les maisons, il y avait pas mal d'arbres fruitiers qui sont aujourd'hui de grande taille et qui ont été plantés en fait à cette époque-là.
Là, sur la photo de 50, on voit la petite venelle dont on parlait tout à l'heure,
qui, oui,
qui passe là.
Ah, bah, venant du champ. Ouais. Et qui, en fait, faisait vraiment la limite en fait, du bourg à cette époque-là. C'était... Après, on était vraiment sur de l'espace agricole.
Donc, nous, les humains, nous nous étendons sans cesse. Nous occupons l'espace. Nous prenons toute la place. Tant pis pour les autres vivants. Mais tant pis pour nous aussi. Retrouvons Nicolas Duverger, le directeur du Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement du Finistère.
La menace, ce n'est pas la Terre. La Terre, elle s'en sortira très bien sans nous. Mais c'est pour l'humanité. Réchauffement climatique, voilà, on est plutôt maintenant à un horizon 3 degrés, 4 degrés sur un court terme, montée des eaux, perte de biodiversité. On assiste à une extinction de masse. Hein. La dernière, il faut se rappeler, c'est les dinosaures, hein, quand même. Il n'y en a pas eu depuis. Hein. Donc, quand on voit, alors il n'y a pas d'extinction de masse aujourd'hui, mais on est dans une dynamique d'extinction de masse de certaines variétés de vivants. Enfin, il s'agit du monde animal ou du monde végétal. Hein, il suffit de se balader, on voit plus d'insectes, enfin, le fameux effet pare-brise étant décrit par les spécialistes, mais plus inquiétant peut-être les oiseaux, etc. Bon, chacun a un chien, chacun a trois chats, et donc effectivement c'est des prédateurs pour ces oiseaux, et puis nos modes de vie, de consommation d'espace font qu'on fait reculer les lieux de vie de ces espèces animales.
Vous menez des permanences. Est-ce que vous vous sentez dans les permanences que vous menez, est-ce que vous sentez quand même que les mentalités changent justement des 500 personnes que vous recevez?
Alors oui et non. C'est un paradoxe. J'ai l'impression qu'on a de plus en plus un clivage en fait entre une catégorie de personnes probablement éveillées conscientisés et qui ont sans doute dans leur jeunesse fait l'expérience de la nature, qui ont peut-être à un moment de leur vie posé les pieds sur terre, pieds nus sur terre, et fait l'expérience de l'altérité au vivant. Et à côté de ça, on continue de voir des gens qui ne se posent pas trop de questions et qui répondent comme des bons petits consommateurs aux produits qu'on leur propose, c'est-à-dire des parcelles de plus en plus réduites, parce qu'effectivement, il faut arrêter l'artificialisation, mais qui continuent d'y poser une maison. Alors, je ne juge pas, même si je donne l'impression comme ça, hâtivement, d'avoir un peu de dédain pour cette catégorie, parce que notre boulot, précisément, c'est de s'adresser plutôt aux gens qui ne se posent pas ces questions-là, essayer de les amener à changer leur modèle de pensée, sans renoncer aussi à des notions de confort. Hein. Bien sûr, il y a eu des avancées, il y a eu des progrès, etc. On ne propose pas de renoncer à ces modèles-là, mais peut-être qu'on peut se décaler, faire un pas de côté, et surtout prendre conscience qu'on s'inscrit dans une chaîne du vivant, qu'on a besoin de renouer avec cette altérité, avec cette différence du vivant. Hein. Aujourd'hui, l'homme perçoit la nature, on va dire, appeler ça un peu hâtivement comme étant la nature, enfin le monde du vivant, comme étant une menace. Or, on fait partie de cette chaîne, malgré tout. Alors on a aussi une responsabilité puissante, puisque l'anthropocène, c'est-à-dire ce changement climatique occasionné par l'activité humaine, nous engage à réparer nos erreurs. Donc, en prendre soin, ça paraît la moindre des choses.
Le CAUE s'adresse aussi beaucoup aux élus, finalement. Est-ce que là, de ce côté-là, ils sont plus conscients, moins conscients que la population, pareil ?
Alors là, effectivement, quand même, on sent des grandes avancées du côté des élus, et ça, on s'en réjouit. On a l'impression qu'on a un moment un peu charnière, et on voit des élus qui... Alors, sur un laps de temps extrêmement court, hein, alors peut-être que les derniers phénomènes climatiques, les incendies ravageurs de cet été, la surchauffe climatique, etc., la pénurie d'eau hein, aussi, ont attisé les consciences. Ça, c'est probable. Mais on sent que sur un laps de temps très court, de 4-5 ans pile, l'effet Covid, bien sûr, nous a permis de réfléchir un peu différemment le monde dans lequel nous vivons. Mais les élus sont très attentifs à cette question. Et la question de biodiversité, qui était quand même reléguée au second plan pendant longtemps, commence à les tarauder. Et je vois beaucoup d'élus, de petites collectivités, et qui ont conscience de s'inscrire dans un ensemble et qui commencent à réfléchir à l'aménagement, ou en tout cas la gestion de leur territoire, un peu différemment, en préservant des espaces de respiration, en ménageant des corridors écologiques, en retravaillant la question du sol, en amenant de la porosité, c'est-à-dire des endroits où le sol va pouvoir s'exprimer complètement. Donc, commence à penser, à repenser le sol comme le faisaient les paysans, c'est-à-dire en trois dimensions, la pédologie, la nature du sol, la surface, et puis la valeur foncière et la topographie. Enfin, donc ça fait...
Alors, je ne sais pas si vous avez prise sur les professionnels, on est aussi des consommateurs, nous, donc on achète des produits, on achète des équipements, et là-dessus, qu'est-ce que vous sentez
Il y a différents types de catégories de professionnels, effectivement. Il y a les prescripteurs, on va dire, un peu éclairés, que sont, avec des guillemets, les architectes concepteurs, surtout les nouvelles générations formées à ces questions de la ressource et des pénuries énergétiques, notamment, et de la biodiversité aussi. Les paysagistes concepteurs, donc ce public et les géographes, une certaine catégorie d'aménageurs, commencent à changer de modèle et offrent des solutions un peu nouvelles, d'ailleurs, souvent pleine de bon sens. C'est-à-dire qu'on se repose des questions qu'on avait oublié de se poser. Hein. On était dans une logique de robinet et de haut débit pour les flux, la formation, enfin pour tout. Hein. Et donc on se pose la question d'une nouvelle façon d'aborder ces questions-là. En revanche, cohabite toujours un jeu économique court-termiste, des marchands de bâches, des marchands de bordures, des marchands de bitume, qui se revendiquent parfois de l'aménagement paysager. Hein, mais il suffit de se balader dans le département pour voir qu'aux entêtes, aux enseignes des aménageurs paysagers, des entreprises de paysage, on voit souvent bitume, bordure, bâche, etc. Et puis on ne parle pas de végétation, on ne parle pas du sol, etc. C'est symptomatique quand même d'une façon de penser. Donc, je pense qu'il y a encore des progrès à faire dans la formation de ces métiers-là, peut-être auprès des BTS, des brevets agricoles. Enfin, il y a aussi la question de l'agriculture qui est très puissante. Bon, voilà. Donc il y a peut-être deux catégories, sans être manichéen, de public. Mais on sent quand même une forte évolution qui est un peu brouillée par une logique économique à court terme.
Le paysage est aussi un un patrimoine, vous le disiez, enfin, architectural, enfin, pas seulement. Alors, et on sent qu'il y a des gens qui se mobilisent contre les éoliennes, par exemple, parce que le paysage est menacé. Donc, est-ce que finalement, le goût du paysage, ça va toujours dans le sens de plus d'écologie ?
Alors, le paysage est un patrimoine, c'est un commun, en fait. C'est le dénominateur, c'est ce qu'on appelait autrefois le cadre de vie. Voilà. C'est un patrimoine dans la mesure où, effectivement, il appartient à chacun d'entre nous. Et on en est surtout chacun responsable. On est chacun un acteur du paysage. Hein. On ne mesure pas à quel point, en installant une clôture, effectivement, on préserve son intimité, mais surtout, on donne à voir quelque chose dans le domaine public. Et ce quelque chose ne fait pas forcément harmonie avec le voisin. Ça constitue un paysage qui est souvent cacophonique, qui n'est pas forcément très harmonieux. Donc, nous, notre boulot, c'est de responsabiliser à ces questions-là. Le paysage, c'est aussi des dynamiques paysagères. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est évolutif. On sanctuarise le bocage et c'est une bonne chose. On imagine que le bocage a toujours existé, qu'il est présent depuis la nuit des temps. C'est une invention humaine, le bocage, qui est un système extrêmement performant du point de vue écologique, du point de vue hydrologique, du point de vue du climat. Mais c'est une invention humaine. Voilà. Et donc, notre message au CAUE, c'est de dire qu'on est un élément, un maillon, un élément de la fabrique du paysage. Que néanmoins, ce paysage, il n'est pas, il n'a pas toujours été le même. Et donc, qu'il y a aussi des évolutions à envisager dans ce paysage. Et ces évolutions, ça peut effectivement passer par l'installation d'équipements nécessaires à l'activité ou à l'établissement humain. Donc, des énergies renouvelables, ça peut être des éoliennes, en choisissant les lieux, en adaptant aussi le modèle de ces éoliennes pour éviter d'être entré en concurrence avec une topographie, avec un modelé, etc. Donc, dans une logique, effectivement, paysagère est entendue comme agreste, esthétique. Mais néanmoins, un paysage, c'est aussi un élément de production de l'activité industrielle. C'est un élément vivrier, hein. Les sols produisent aussi de quoi se nourrir. C'est un élément, dans le paysage, on établit aussi des activités culturelles, etc. Donc voilà, il faut comprendre que les choses évoluent, qu'il faut éviter l'effet carte postale ou l'effet waouh, voilà, essayer de lutter contre le caractère figé du paysage. Et en même temps, il y a des modèles... on va dire esthétique, ou en tout cas, il y a des modèles, je pense au bocage, de composition qui sont extrêmement performants du point de vue esthétique et du point de vue de la biodiversité et de la nature, en fait.
Alors, que peut-on faire pour prendre soin de nos paysages sans transformer nos territoires en musées ? Lise Vauvert, la chargée de mission paysage du Parc naturel régional d'Armorique, se charge d'accumuler des connaissances sur les paysages locaux et leurs évolutions. Elle accompagne les politiques d'aménagement des différentes communes et elle sensibilise élus et publics.
Au Parc d'Armorique, on a également tout un volet de nos actions qui concerne le suivi de l'évolution des paysages, avec l'animation d'un observatoire photographique du paysage. Donc, qui nous permet de suivre, en fait, grâce à différentes photographies sur l'ensemble du territoire, comment le paysage évolue, même encore aujourd'hui.
Et en termes de politique paysagère du parc, c'était quoi, en fait, les grands axes de cette politique paysagère ?
Alors, il y a différents points qui se sont organisés, en fait, en fonction du type de paysage. Sur les paysages bâtis, par exemple... Là, le travail s'est surtout concentré autour de la question de l'aménagement de l'espace public, d'éviter les extensions d'urbanisation. Réussi, pas réussi, mais voilà, c'est un des objectifs. Sur la question de la forêt, par exemple, on a mené tout un travail aussi sur la prise en compte du paysage dans les projets de boisement, que ce soit coupe, relocalisation, d'essayer de voir comment essayer de d'évolution.
Notamment sur les espèces aussi sélectionnées. Enfin, en gros, c'est pas couvrir les mandarins de résineux, c'est ça ?
Voilà, c'est exactement le sujet sur lequel on a travaillé, effectivement, sur la place des résineux dans le paysage, et de voir en fonction des différents secteurs du parc et unités paysagères, si on employait le terme technique, de voir celles où on pouvait effectivement y avoir des boisements de résineux qui avaient tout à fait leur place dans le paysage, et d'autres où, au contraire, il serait plus pertinent d'éviter. On peut citer différents aussi un peu études exploratoires qu'on a pu mener, par exemple sur la prise en compte et la réflexion autour des espaces habités. Il y a eu beaucoup de choses de faites sur la question des centres-bourgs Et du coup, on a travaillé avec un étudiant paysagiste sur la question des villages et des hameaux. Et de se dire, bah voilà, ce sont aussi des lieux habités au même titre que les bourgs. Et du coup, bah, quel avenir on peut imaginer autour de ces espaces de vie.
Vous avez parlé donc d'échanges avec les sylviculteurs et avec les agriculteurs. Et justement, en matière de paysage agricole, qu'est-ce qui est fait, par exemple ? Enfin, est-ce que, par exemple, le bocage, c'est pas tout à fait votre sort ou pas ?
Le bocage, si, effectivement. Là, on intervient surtout sur la réalisation d'inventaire du bocage. Donc là, je ne suis pas du tout toute seule là-dessus. C'est même pas moi qui suis directement à la manœuvre. C'est surtout mes collègues sur la question de la trame verte et bleue. Mais là, moi, j'interviens en complément sur justement la prise en compte du paysage et de voir dans ce bocage, de montrer des formes qui sont aussi spécifiques d'un secteur à l'autre du parc et qui seraient intéressantes justement de conserver. Et on utilise aussi beaucoup la question du paysage pour permettre aussi la concertation. J'ai des exemples voilà, sur certaines communes où du coup on a présenté voilà, les différentes formes de bocage sur la commune, une sortie de terrain pour aller voir justement ces différents exemples. Et ça, c'est vrai que cette question du paysage est une bonne méthode pour réussir à faire échanger les acteurs sur ces questions-là.
Et quand il y a des nouveaux éléments de paysage, alors je pense par exemple aux éoliennes qui créent finalement des débats sur le paysage, alors là vraiment il en est question, comment est-ce que le parc peut intervenir dans ce cas-là ?
Alors là-dessus, sur la question spécifique des éoliennes, c'est vrai que dans la charte du parc, celle qui est actuelle, on avait défini donc une zone sur laquelle l'éolien de grande hauteur n'était pas souhaitable. Donc voilà, c'est grosso modo la crête des Monts d'Arrée. Mais en parallèle, on a mené aussi tout un travail effectivement sur la dimension paysagère pour voir, ok, si on n'en met pas sur le secteur, enfin sur la ligne de crête des Monts d'Arrée, qui sont les paysages emblématiques du parc, où est-ce qu'on pourrait en mettre de manière à avoir quand même un parti pris, faire un choix et de pouvoir orienter justement après les porteurs de projets en disant bah, là c'est non, là par contre on peut sous telle condition et d'essayer d'avoir un projet cohérent à l'ensemble, sur l'ensemble du territoire.
Au Conseil d'architecture et d'urbanisme et d'environnement du Finistère, on mène d'autres actions concrètes.
On part à la reconquête des murs en pierre sèche.
Nicolas Duverger.
C'est un élément marqueur du paysage du Cap-Sizun, oublié sous des broussailles, sous la lande qui s'est enfrichée, etc. Et pour autant, c'est un élément à la fois de patrimoine commun, un marqueur territorial du Cap-Sizun et du Finistère d'une façon générale. C'est un savoir-faire paysan. Et donc notre travail, ça va être de mettre en place des formations pour les prescripteurs, architectes et paysagistes pour qu'ils puissent mieux donner des consignes aux entreprises qui vont fabriquer des murs dans les projets d'aménagement, aux particuliers pour les inviter à réparer de manière décomplexée les murs dont ils sont propriétaires, et puis aux agents des services techniques des collectivités du Cap-Sizun, mais élargis à des périmètres voisins, pour qu'ils prennent soin de ce paysage ordinaire à l'échelle de la commune. Donc ça, c'est une action qu'on pourrait qualifier peut-être d'emblématique, dans la mesure où elle est extrêmement située, quoi. C'est quelque chose qui appartient au Finistère. Et donc notre mission, là, en l'occurrence, c'est d'essayer, par ce bouquet d'actions, de réactiver ce savoir-faire traditionnel.
Et moins situés, d'autres exemples qui ont l'air de rien peut-être, mais qui auraient un impact important s'ils étaient faits partout.
Alors, la question des bâches en plastique. Moi, voilà. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous l'observez autant que moi, on assiste à une plastification du monde. Des récentes études disaient qu'on trouvait même des particules de plastique au sommet du Mont Blanc. Mais on en trouve dans l'eau, il suffit de se balader sur la côte. Et ces rejets de plastique, là, émanent bien souvent des bâches en plastique posé au sol pour essayer de contrecarrer la survenue de mauvaises herbes au pied des arbres ou des parterres qu'on entend protéger. On a mis en place une fiche pratique que vous trouverez sur site internet qui dénonce du CIE, qui dénonce les ravages de ces bâches en plastique qui coûtent cher. Je crois que c'est 30 euros le mètre carré de bâches fourniture et pose. Vous voyez, ça coûte un peu d'argent, qui altère la qualité d'un sol, puisqu'il n'y a plus d'échange gazeux entre l'atmosphère et le sol, donc il n'y a plus de lombric, il n'y a plus d'humus, il n'y a plus rien du tout, et qui finit par se déliter, produisant des déchets. Voilà. Et alors ces bâches qu'on se propose généralement d'enlever au bout de 10 ans, en disant une fois que les arbres sont plantés, ben en fait ils partent en lambeaux et on ne les défait jamais. Donc il est temps de partir à la reconquête des consciences sur cet aspect-là et dire qu'on a planté pendant des millénaires, on peut le dire, sans utiliser de bâches. Voilà, en faisant un trou dans le sol, en prenant soin de la vie du sol, en l'amendant éventuellement et puis en paillant de manière organique pour favoriser la pousse de l'arbre ou de la plante attendue. Donc voilà, ça c'est une action qu'on pense emblématique, qui a vraiment du sens et qui, à la fois sur les aspects environnementaux, écologiques et à la fois sur les aspects paysagers, entendus sous un angle esthétique.
Et pour qu'on ait moins peur de cette nature, parce qu'en effet, on en a peur. Je crois qu'aussi, vous aidez les communes qui veulent revégétaliser un petit peu les coins, les recoins, les pieds de mur.
Exactement. Alors, il y a plein de modalités pratiques d'intervention auprès des communes. On intervient notamment auprès des cours d'école, auprès des communes qui souhaitent renaturer, c'est pas très joli comme mot, ramener un peu de nature dans les cours d'école, en composant avec l'existant, par de la découpe un peu savante de bitume, et puis en ramenant un peu de porosité, un peu de pleine terre. On accompagne aussi le département sur ce plan très emblématique de l'implantation de 500 000 arbres, et donc on conseille les communes qui souhaitent planter des arbres, on les forme aussi, en lien avec l'ONF et le département, pour que les sujets choisis soient adaptés au climat, et que leur mode de gestion soit aussi adapté dans un long terme, pour éviter qu'au bout de 5 ans, on s'arbre des arbres, parce qu'on parle par négligence. Donc ça aussi, ça fait partie des sujets un peu emblématiques.
Et puis c'est pas seulement pour faire joli la nature en ville, on est d'accord, hein,
C'est essentiellement pour notre survie, on peut le dire ainsi. C'est aussi un point de vue esthétique, bien sûr. C'est la notion de paysage, de dynamique paysagère, et puis de cadre de vie, comme je le disais, qui est un mot un peu pompeux. Mais c'est surtout une utilité, j'allais dire, fonctionnelle. Quoi. On parle de services écosystémiques rendus par la nature. La végétation en ville en rend énormément. Hein. C'est à commencer par les abeilles qui arrivent parce qu'il y a des fleurs. Et il y a des fleurs parce qu'il y a du sol. Enfin voilà, donc on habite dans un cycle.
L'Observatoire de l'environnement en Bretagne mène en ce moment une enquête auprès des Bretonnes et des Bretons sur leur paysage quotidien pour adapter aussi les actions qu'il faudra mener ces prochaines années.